Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Et nous sommes jeudi 9 décembre 2021. Vous suivez la radio Nzamba à Gaté Kakawe. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. Pas de rapporteur spécial des Nations Unies au Burundi. Le gouvernement est clair. Il ne sera jamais autorisé à entrer sur le territoire burundais. Le ministre des Relations Extérieures vient de l'annoncer. Les sinistrés du débordement du lac Tanganyika de Lumonge et Makamba demandent des abris solides. Ils redoutent que les fortes pluies emportent les fragiles tentes en plastique qui leur ont été octroyées. Et puis, il faut écrire une lettre déléguée de la Brarodi une semaine avant une fête pour accéder aux produits de cette société. Cela se passe à Kayanza, où les consommateurs dénoncent une spéculation effrénée de la part des vendeurs de ces boissons. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Coup de tonnerre à Bujumbura, le ministre des Relations Extérieures vient d'annoncer que le prochain rapporteur spécial des Nations Unies ne sera jamais autorisé à mettre le pied sur le territoire burundais. Et pour faire les choses en grand, Albert Shingiro avait invité les diplomates accrédités au Burundi et les représentants des organisations internationales pour un briefing relatif à cette annonce. Pour rappel, l'ONU avait annoncé en septembre dernier qu'elle ne reconduirait pas le mandat de sa commission d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi et qu'en lieu et place, un rapporteur spécial serait dépêché dans le pays. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Un sexagénaire a été tué, décapité, puis déchiqueté par une grenade. Jean Bosco Naovali habitait la colline Rusororo de la zone Rugombo dans la province de Cibitoke. Ses bourreaux n'ont pas encore été identifiés. La famille du sexagénaire demande qu'une enquête soit menée pour retrouver les criminels. Il n'y a pas un mois, 4 personnes avaient été tuées, suivant le même mode opératoire dans les communes de Mabayi, Mugina et Rugombo de cette province de Cibitoke. Nous sommes le 9 décembre et c'est la journée internationale dédiée aux défenseurs des droits de l'homme, l'occasion pour l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger d'appeler le gouvernement burundais à cesser de persécuter ses activistes. L'organisation réclame par ailleurs la libération de l'avocat Tony Germain Nina, détenu depuis le 13 octobre 2020, accusé de collaboration avec des rebelles, ainsi que tous les prisonniers d'opinion. On écoute Germain Rukuki, président de cette association.
Au Burundi, cette journée est commémorée dans un contexte marqué par les effets de la crise de 2015. Le 23 juin 2020, 34 personnes ont été condamnées à perpétuité, dont 12 défenseurs des droits humains et journalistes en exil. Des défenseurs qui ont eu le courage de rester au pays, certains ont été victimes de détentions arbitraires. C'est le cas notamment de défenseurs des droits humains comme Nestor Nvitanga, Germain Rukuki et 4 journalistes du journal Iwachu qui ont été arrêtés, emprisonnés et libérés après plusieurs années de détention arbitraire. Différents d'autres, Maître Germain, Tony Nina et plusieurs prisonniers d'opinion qui croupissent encore dans les différentes prisons du Burundi. Nous rappelons les autorités burundaises que les défenseurs des droits humains ne sont ni des délinquants ni des ennemis du pays. Ils contribuent plutôt à bâtir un espace où la loi, les droits et libertés pour tous sont respectés. Nous interpellons les autorités burundaises à la libération immédiate et sans condition de Maître Tony Germain Nina et des prisonniers d'opinion. Nous demandons également l'annulation sans condition de mandats d'arrêt illégaux ainsi que des peines et injustement endossées aux différents défenseurs des droits humains.
Et puis, une enquête indépendante doit être diligentée pour déterminer l'origine du récent incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega et établir les responsabilités dans ce sinistre. Cela figure dans le communiqué sorti ce mercredi par le FODIB, Forum des diasporas burundaises d'Europe. Oscar Boutalé, président de ce forum, demande aux autorités du pays pour éviter que de telles situations se reproduisent.
L'Ophobib adresse ses condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu le leur lors de cette tragédie et souhaite un bon rétablissement aux personnes blessées. L'Ophobib regrette le retard de l'intervention et la gestion calamiteuse de cette tragédie. L'Ophobib voudrait qu'une enquête indépendante soit diligentée pour déterminer l'origine de l'incendie, établir les responsabilités dans la gestion de ce sinistre et faire des propositions quant au problème de la surpopulation carcérale et de sécurité dans les différents établissements pénitentiaires. Une fois les responsabilités établies, l'Ophobib demande que les responsables soient punis conformément à la loi. L'Ophobib demande également au gouvernement du Burundi d'organiser dignement les funérailles des personnes décédées, de soigner les blessés et de venir en aide aux détenus ayant perdu tous leurs biens au cours de cet incendie. L'Ophobib termine en demandant aux autorités burundaises de tout mettre en œuvre pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir dans les différentes maisons de détention du pays.
Inzamba.
Suite de cette édition, c'est la peur panique au sein de la population sinistrée des provinces Lumonge et Makamba suite au débordement du lac Tanganyika. Cette population craint que ses abris, construits en shifting, risquent d'être emportés par la pluie, surtout en cette période de la saison pluvieuse. Les sinistrés demandent à ce que des maisons leur soient construites. Les détails avec Benny Axelakana.
Nos sources sur place à Lumonge révèlent que ces sinistrés qui vivent sur le littoral du lac Tanganyika, depuis la commune Muhuta de la province de Lumonge jusqu'à Nyanzalake dans la province de Makamba, mènent une vie très difficile. Ils vivent dans des tentes de 2 mètres sur 3 par ménage. Depuis le début de la saison pluvieuse, ces sinistrés vivent dans la peur. Ils craignent que ces tentes peuvent être emportées par des vents violents d'un moment à l'autre. Ils demandent aux âmes charitables de contribuer pour qu'ils aient des maisons en dur. Les mêmes sources en provenance du sud disent que parmi ces déplacés, suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, une vingtaine de familles sont logées dans les locaux du centre connu sous le nom de Samina, c'est au chef-lieu de la province Lumonge. D'autres sont hébergés dans des familles alors qu'une autre partie vit au centre de Lumonge dans des conditions très déplorables. Vous saurez que ces sinistrés vivent dans ces conditions depuis 2019. Ils sont estimés à 20 000 ménages et c'est l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui avait contribué pour l'obtention de ces tentes.
Je vous le disais dans les titres, la pénurie des produits Brarodi continue à se manifester dans la province de Kayanza, ce qui entraîne la spéculation chez certains propriétaires des débits de boissons. Selon les sources émanant de cette province, cette même carence fait également que ceux qui envisagent de faire des fêtes de circonstance doivent adresser une lettre, une ou deux semaines avant, une demande écrite aux délégués de la Brarodi dans cette province pour s'assurer d'avoir la quantité de boissons demandées. Certains résidents de cette localité demandent au gouvernement d'augmenter la production de ces produits pour faire face à cette situation. Parfait Moudassigana nous en dit plus.
Cette pénurie des produits Brarodi dans la ville de Kayanza et dans ses environs date de longtemps et au fil des jours, les choses vont de mal en pire. Auparavant, seule la carence de l'Amstel blonde, 65 centilitres, s'observait dans les bars. Mais aujourd'hui, il y a aussi la pénurie d'autres sortes de boissons et cela peut même durer 4 jours. Il s'agit entre autres de la Primice 72 centilitres, le petit hamster surnommé Béchou, l'hamster royal et les limonades aussi. Il est constaté aussi que les commerçants en profitent pour hausser déloyalement les prix. À titre d'exemple, l'hamster blonde 65 centilitres peut se vendre entre 2000 et 2500 francs burundais alors que le prix officiel est 2900 francs burundais. La Primice peut se vendre à 1700 alors que le prix fixé est 2500 francs burundais l'unité. Selon les mêmes sources, dans certaines communes, on peut passer 2 semaines sans être approvisionné. Cela perturbe parfois l'organisation des fêtes de circonstances du moment que l'on doit adresser une demande écrite aux délégués de la Brarodi 1 ou 2 semaines avant pour un approvisionnement en boisson.
La pénurie des boissons est pertinemment dans ces jours, surtout chez les personnes qui organisent des différentes cérémonies. Par exemple, moi dernièrement, j'ai préparé la réception de mon mariage. Il m'a fallu que j'écrive une lettre adressée au délégué général de la Brarodie et que j'ai aussi annexé ma carte d'invitation pour montrer que réellement j'ai besoin des boissons. Et la déléguée a fait une commande de ces boissons à Bujumbura. Donc, la pénurie des boissons est devenue un problème sérieux.
Les habitants de Kayanza demandent au gouvernement de suivre de près la question de cette pénurie et aider la Brarodie à trouver une solution durable à ce problème en augmentant la production.
Que les autorités cherchent à résoudre le problème depuis l'usine Brarodie. Si le problème se trouve au sein de l'usine Brarodie, qu'il veille à ce que le problème soit résolu.
La radio Nzamba n'a pas pu trouver le délégué général de la Brarodie à Kayanza pour avoir son avis face à cette carence des produits Brarodie à Kayanza.
Nous constatons régulièrement des abus contre les veuves, comme l'expulsion dans le foyer après la mort de leur conjoint et ou le refus de jouir des biens du ménage. La loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre de 2016, en son article 59, précise pourtant que « toute personne qui fait obstacle au conjoint survivant de jouir des biens du ménage est punie d'une servitude pénale de 1 à 3 ans » et d'une amende de 50 à 100 000 francs bruts. Les autorités judiciaires devraient veiller à la bonne application des textes et règlements mis en place pour l'intérêt des victimes des violences basées sur le genre. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi en partenariat avec le collectif des avocats CAVIB.
Le monde entier célèbre le 9 décembre de chaque année la Journée internationale contre la corruption. Cette journée arrive au moment où en Afrique, et plus particulièrement au Burundi, le fléau de la corruption reste un handicap majeur au développement. C'est en substance le contenu d'une déclaration faite par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Gabriel Ufili, le président de l'ODICOM, explique que le gouvernement du Burundi doit consentir de gros efforts dans la bonne gouvernance pour bien mener la lutte contre la corruption. Suivez Gabriel Ufili.
L'organisation par les Nations Unies de la 9e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte du 13 au 17 décembre 2021. Nous pensons que des résolutions importantes seront prises pour lutter efficacement contre le fléau de la corruption à l'échelle mondiale. À cet effet, l'ORICOM a eu aussi l'honneur d'avoir l'occasion de faire une communication. Nous allons montrer les handicaps majeurs du développement en Afrique et plus particulièrement au Burundi. Nous demandons au gouvernement du Burundi de se conformer aux décisions qui seront prises lors de cette conférence afin d'éradiquer la corruption au Burundi, qui est devenue un problème de société et un handicap de toutes les initiatives de développement. Cette journée internationale de lutte contre la corruption arrive aussi au moment où Son Excellence Monsieur Joe Biden, le président des États-Unis, organise un sommet sur la démocratie qui réunit les dirigeants des pays et territoires presque du monde entier. Nous pensons que des décisions importantes en rapport avec la démocratie pourront être prises dans le but d'asseoir la démocratie au niveau mondial. L'ORICOM publie son communiqué au moment où Raphaël Manirumba, que vous savez qui avait été assassiné au 9 avril 2009, jusqu'aujourd'hui, l'ORICOM, la famille et les amis de Ernest Manirumba attendent la vérité sur cette affaire. Nous voyons qu'il y a déni de justice parce que il n'est pas normal qu'un dossier comme ça puisse passer à peu près 9 ans sans rien faire.
Et pour terminer, le pays a subi trop de pertes dans l'attribution de gros marchés publics et il est grand temps que la justice fasse son travail. C'est le clin d'œil de Faustin Likumana, président de l'ONG Parole et Action pour le changement des mentalités. Il a dit à l'occasion de la Journée internationale contre la corruption. Faustin Dikumana recommande au gouvernement d'adopter un contrôle rigoureux dans l'octroi des marchés publics.
Et au niveau des parcelles, nous avons voulu insister sur deux secteurs, le secteur des marchés publics et le secteur des exonérations, parce que nous les jugeons trop cruciaux dans la lutte contre ce fléau qui gangrène la société burundaise. Pour les marchés publics, nous manque à gagner que le Burundi a déjà perdu lié à une mauvaise passation des marchés publics. Il y a eu la concession des routes, comme la route Rumonge avec M. Jacobs, Venet, les routes Ndora, Makebuko, barrage de Kajeki qui a coûté environ plus de 10 000. Il y a, mais maintenant, il y a un déficit au niveau de l'irrigation. La production du riz reste hypothétique ici, dans la plaine de Limbo, et les agriculteurs ont commencé à se plaindre. Il y a les retards dans les projets. Au niveau des exonérations, on les limite à 18 milliards dans l'exercice budgétaire, mais au niveau de l'exécution, on trouve que c'est plus de 200 milliards. Malheureusement, tout cela se fait que les garanties de transparence sont mentionnées dans la loi, notamment la planification des marchés publics, au plus tard 31 mars, la publication dans les journaux. La publicité, la concurrence, la transparence dans le processus de passage des marchés, l'exemple des institutions comme la Direction nationale des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics qui a la capacité de faire un audit indépendant et de faire un rapport. Mais on voit que malgré toutes ces exigences, la situation reste toujours problématique. Et là, c'est pour cela que nous lançons un vide appel au gouvernement de prendre des dispositions. D'abord, au niveau des marchés publics, il faut un audit indépendance, voir les responsabilités, les manques à gagner, les pertes, établir les responsabilités et permettre à la justice à commencer à jouer son rôle. Parce qu'il est grand temps que la justice commence à jouer son rôle par rapport à ces pertes que le pays enregistre. Au niveau des exonérations, on devrait d'abord arrêter l'octroi des exonérations. Une période au moins de 3 mois pour y voir créer. Il faut qu'il y ait une structure unique qui contrôle l'octroi des exonérations, faire aussi un audit indépendant aussi pour savoir les entreprises qui ont bénéficié de ces exonérations, les propriétaires et voir vraiment s'il y a eu une contrepartie au niveau de l'investissement et de la création d'emplois. Sinon, si ces secteurs restent gangrés par la corruption et la mauvaise gestion et le développement, l'émergence à laquelle nous aspirons sera toujours reporté au calendre grec.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba Agathe Kakaoué pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.